Suite et troisième partie de la retranscription audio intitulée « Je suis un vrai témoin » du missionnaire Ewald Franck. Maintenant, je voudrais lire pour vous ce que j'ai pris d'une prédication que Frère Branham a prêchée le 2 septembre 1959. Ici, de ses propres lèvres, nous entendons ces mots. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'est donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce qui est sorti de ses propres lèvres. Juste après cette déclaration, il met l'accent en disant « Ce n'est pas que je serai le précurseur, mais le message serait est le précurseur. » Ceci est d'une grande importance. Ceci a été prêché un certain 2 septembre 1959. Bien-aimé, ceci est très important pour moi, parce que le 11 juin 1933, après que Frère Branham ait eu sa première campagne évangélique, il y avait près de 300 personnes ayant donné leur vie au Seigneur et qui étaient prêtes pour le baptême, et la foule présente était de près 4000 personnes. Alors que Frère Branham se tenait dans la rivière Ohio, de même que Jean-Baptiste s'était tenu dans la rivière du Jourdain pour baptiser notre Seigneur, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu descendit. Ce n'était pas arrangé par William Branham, c'était Dieu agissant d'une manière surnaturelle. Alors qu'il voulait baptiser la 17e personne, quelque chose arriva. Le ciel s'ouvrit et une lumière surnaturelle comme une grande étoile descendit à quelques mètres au-dessus de Frère Branham, visible à tous les 4000 personnes présentes. Certaines s'évanouirent, certaines tombèrent, d'autres prièrent. Tous avaient vu la lumière surnaturelle et d'elle, une voix prononça ces mots que Frère Branham a répétés ici. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, il t'est donné un message qui préparera la seconde venue de Christ. Quel est le message? Le message est la parole promise de Dieu, la révélation de toutes les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. La parole écrite devint à nouveau la parole révélée, vivante, la parole parlée. Nous expérimentons maintenant la dernière partie du plan du salut. Afin que vous puissiez savoir, bien-aimés amis, que je ne fais pas seulement parler de ces choses, mais que j'ai des preuves de ce que je dis, sachez que j'étais en contact avec Frère Branham pendant exactement 10 ans, de 1955 à 1965. J'ai 23 lettres de William Branham. Au travers de toutes ces années, nous avions de la correspondance. Je lui écrivais et il répondait au cours de toutes ces années. Voici une lettre datée de mars 1964. La dernière est de novembre 1965. Mais ici, il est dit « Cher frère Franck, salutations dans le nom du Seigneur. Pourquoi est-ce que je vous montre de tels documents? Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont jaloux des choses que Dieu a faites au travers de mon humble ministère. Mais il n'y a pas un seul succès que je puisse mettre à mon compte. Je sais combien je dois, consciencieusement, rendre la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Juste après que j'étais avec Frère Branham en 1962, je fus abordé par l'éditeur de La Voix de la Guérison, en allemand, le révérend Albert Gott, de la ville de Hambourg. Ici, vous voyez ma photo en mars 1963. Sur la première page, la photo de Frère Franck apparaît, sous-titrée « Une expérience surnaturelle ». Ici, la visite faite auprès de Frère Branham au sujet de la famine spirituelle. Ce n'est pas une histoire inventée après coup. Non, je peux prouver ce que j'ai dit tout au long de toutes ces années. Pour un véritable homme de Dieu, il n'est pas nécessaire de raconter des histoires. Nous avons assez de vrais documents, assez de vraies expériences auxquelles nous pouvons nous référer. Bien-aimés, le temps dans lequel nous vivons est vraiment très important. Et je voudrais m'adresser à tous les ministres, tous les évangélistes, tous les hommes de Dieu qui se classent eux-mêmes dans le pentecôtisme, le full gospel ou autres églises ou dénominations ou dans les mouvements charismatiques. Je dois vous dire ces choses aujourd'hui afin de me décharger de la responsabilité qui est sur mes épaules. Dieu a accompli ses promesses sans nos jours. Il y a principalement deux promesses. Une s'est accomplie à la première venue de Christ, au travers du ministère de Jean-Baptiste, lequel était un prophète promis conformément à Malachie 3, verset 1er, et aussi conformément à Ésaïe 40, le verset 3. Mais il y a encore une autre promesse faite dans Malachie 4, au verset 1er. Car voici, le jour vient, brûlant comme un four. Si vous voulez savoir ce qu'est le jour du Seigneur, lisez Ésaïe 13, lisez Joël 2, lisez dans Sophonie, lisez dans plusieurs autres écritures de l'Ancien Testament jusqu'à Malachie 4, le verset 5. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Au temps de Jean-Baptiste, c'est le jour du salut, le temps de la grâce qui commença. Et nous avons déjà passé 2000 ans sans que le jour du Seigneur ne soit arrivé. De même, dans le Nouveau Testament, lors de sa première prédication, le jour de la Pentecôte, l'apôtre mentionna la venue du jour du Seigneur. Nous devons savoir que dans Actes 2, verset 20, la Bible dit concernant l'effusion du Saint-Esprit, « Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. » Vous pouvez lire cela dans tout le Nouveau Testament où Pierre et Paul en ont parlé. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 2, les versets 1er et 2, l'apôtre dit « Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Ainsi, jusqu'à ce moment-là, l'apôtre disait que le jour du Seigneur était dans le futur. Vous devez comprendre ceci parce que presque toutes les promesses de l'Ancien Testament sont en relation avec la première et la deuxième venue. Et nous devons comprendre les deux applications des nombreuses promesses de l'Ancien Testament pour comprendre comment l'accomplissement se fait dans le Nouveau Testament. Ici, il nous est dit comment le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, l'apôtre se réfère également à la venue du Seigneur et à la patience qu'il a envers nous. Et il dit dans 2 Pierre 3, le verset 8, « Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Nous avons des brochures qui traitent de ce sujet, mais il est dit, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle sera brûlées entièrement. » Amis, l'Ancien et le Nouveau Testament, les prophètes et les apôtres, tous tiennent sans cesse le même langage. Ainsi, les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau ont parlé à plusieurs endroits au sujet du jour du Seigneur. Ils parlent du jour du salut, mais aussi du jour du Seigneur qui doit venir. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur ce que le Seigneur dit dans Matthieu 17. C'est très important pour nous, je ne ferai que toucher à Matthieu 17. Notre Seigneur y confirme la promesse selon laquelle Élie doit venir premièrement. Lorsque Israël est concerné, il y a toujours deux prophètes qui sont mentionnés. Comme dans Apocalypse 11, les deux prophètes exerceront leur ministère pendant 3 ans et demi à Jérusalem. Mais quand nous sommes concernés, mais quand la fin de l'âge des nations est arrivée, juste avant que le jour du Seigneur apparaisse, le Seigneur dit « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Dans Matthieu 17, verset 10, nous lisons ceci. « Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» La question ne concernait qu'Élie seulement. Pas les deux prophètes, mais un seul. J'apprécie et j'aime ce qui est écrit au verset 11. Et lui, répondant, leur dit, en somme, ce n'est pas de ta réponse que j'ai besoin, et tu n'as pas besoin de ma réponse. Lorsque les choses du royaume sont concernées et que nous avons affaire à la parole promise de Dieu, nous n'allons pas vers le clergé de quelque église, nous n'allons pas vers un évangéliste ou vers un docteur. Nous allons à la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole venant des lèvres de Jésus-Christ lui-même, et c'est ainsi que nous entendons la Bible nous dire d'une manière merveilleuse et majestueuse. En effet, Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses. Bien-aimés frères dans le ministère du monde entier, et tout simplement vous qui êtes dans les rangs du plein évangile ou dans les mouvements charismatiques, je sais que vous avez de bonnes intentions, que vous essayez de faire de votre mieux pour aider Dieu, pour amener un mouvement du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire que notre temps est terminé. Le retour du Christ est imminent. C'est maintenant le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Vous-même devez être mis en contact avec la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Et bien aimé, si vous essayez de passer outre à toutes les confirmations surnaturelles faites par Dieu dans la vie et dans le ministère de frère Branham, et si vous vous référez aux choses qui arrivent dans votre ministère pour vous justifier vous-même ou à vos enseignements, vos voix et vos actions, bien aimé frère, je dois vous dire que plusieurs viendront au Seigneur ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et que leur répondra le Seigneur? Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Bien-aimés, ceci est le temps de Dieu pour vous, ceci est le temps de Dieu, au travers de vous, pour le peuple de Dieu. C'est le temps de la restauration totale, le temps de revenir sur le fondement réel des apôtres et prophètes. Et William Branham, le prophète de Dieu promis pour cette génération, nous a ramenés au fondement apostolique sur lequel la vraie Église est édifiée, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui a commencé est le même qui achèvera également. Ceci est le temps, semblable à celui où Élie prit les 12 bières, conformément aux 12 tribus, et rebâtit l'autel du Seigneur. De même, William Branham reprit la doctrine des 12 apôtres afin de restaurer toutes choses dans l'Église du Dieu vivant. Il avait un ministère apostolique et prophétique restauré. À Krefeld, il y a une centaine des bandes disponibles que vous pouvez entendre. Vous pouvez voir les images, vous pouvez vous convaincre par vous-même. Et j'espère que cela vous tient à cœur. Je vous en prie, ne passez pas à côté de ce que Dieu a fait. Je dois arriver à la conclusion. C'est un grand privilège pour moi de donner ce témoignage en tant que véritable témoin, non seulement de ce que Dieu a fait dans les années 50 et 60, mais je suis aussi témoin de ce que Dieu a fait et est en train de faire à travers le monde entier depuis ce temps-là. Je n'exagère pas. Des millions de croyants croient à la parole révélée de Dieu. Des millions ont reçu le message de l'heure. J'ai personnellement prêché plus de 6500 prédications. J'ai voyagé sur plus de 4,8 millions de kilomètres et j'ai visité plus de 130 pays. Et les prédications de Frère Branham et les littératures de Frère Branham sont déjà traduites et imprimées dans notre centre missionnaire, ici à Krefeld, dans 8 langues différentes. Et Dieu qui m'a donné la faculté de prêcher dans 4 langues différentes m'a donné le privilège spécial de l'introduire, lui, et ce qu'il fait conformément à l'Écriture. Il est très important de croire toutes choses telles que les Écritures le disent. Bien-aimés, je m'adresse à nouveau à tous les frères dans le ministère dans le monde entier. Je pense à mes précieux amis à Berlin, à Eugene Bird et à Human Patent, à nos bien-aimés frères en Amérique, à frère Franklin et plusieurs autres amis et frères. Bien-aimés, c'est le temps et nous sommes prêts à aller tout le chemin avec Dieu. Nous sommes prêts à recevoir la correction. Nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts à nous accorder avec l'Écriture. Je n'aimerais pas être un prédicateur prêchant aux autres prédicateurs. Mais comprenez, bien-aimés, que je suis devenu une partie du plan de Dieu pour ce temps de la fin. Et plusieurs de nos bien-aimés à travers le monde, notre bien-aimé frère Perry Green à Tucson, Arizona, d'autres frères bien-aimés aux États-Unis d'Amérique, au Canada, notre bien-aimé frère Sewell en Nouvelle-Zélande, notre bien-aimé frère Sidney Jackson en Afrique du Sud. Dans tous les différents pays, il y avait des frères que Dieu a utilisés, auxquels Dieu pouvait montrer ce qui arrive conformément à la parole promise. Laissez-moi faire cette déclaration finale. Lorsque je compare vous, bien-aimés évangélistes et autres prédicateurs, à William Branham, laissez-moi humblement et sincèrement faire cette déclaration. Il était un prophète promis comme Jean-Baptiste était un prophète promis. Dieu a fait l'histoire. Dieu a commencé au travers de William Branham en 1946 ce réveil puissant de guérison et de restauration. Il était seul au cours des premières années et ce n'est qu'après les années 48, 49, 50 et autres que plusieurs autres, depuis les années 50, furent inspirés par son ministère. Ainsi, bien-aimés, vous qui partagez les bénédictions des ministères qui ont commencé surnaturellement avec William Branham, ne voudriez-vous pas revenir et poser cette question? Quel était et quel est donc le but d'un tel ministère envoyé par Dieu sur mon chemin et dans ma génération? Certainement, nous ne devrions pas passer à côté de ce but, mais nous devrions nous demander, Seigneur, qu'es-tu en train de faire conformément à ta parole promise pour ce temps? Bien-aimé, le temps touche à sa fin, et je peux vous dire plusieurs choses concernant l'accomplissement des prophéties bibliques. Je vis dans ce continent, je suis en contact avec Jérusalem, je suis en contact avec ce qui arrive conformément aux prophéties bibliques en Europe centrale. Mais le principal, je peux le dire humblement par la grâce de Dieu, c'est que j'ai le contact avec Dieu au travers de sa parole et par le Saint-Esprit. Ainsi, conformément à la commission divine que j'ai reçue, je désire partager la parole révélée de Dieu avec vous. Comme le prophète Amos a dit, « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Non pas d'entendre des interprétations ou des explications, mais soif d'entendre la parole éternelle de Dieu. C'est cela que nous avons besoin d'entendre. Et aussi, il est dit dans Matthieu 24, le verset 45 à 47, que nous serons établis sur toute chose pour distribuer la nourriture. Dieu a toujours utilisé une personne, alors il utilise plusieurs autres pour avoir part au même ministère. De même que Paul était utilisé par Dieu d'une manière spéciale, ainsi plusieurs autres partagèrent ce service avec lui. Et nous continuons à partager aujourd'hui ce que Dieu lui avait donné. De la même manière, Dieu a utilisé frère Branham. J'ai été béni par son ministère, mais j'ai été appelé directement par le Seigneur. Et ainsi, ma relation n'est avec le Seigneur par sa parole et par son esprit, avec le message de l'heure et aussi avec le messager. De cette manière, par la grâce de Dieu, il était possible de demeurer en parfait équilibre dans les Écritures et dans le message de l'heure qui est la parole promise et révélée de Dieu, laquelle arrive maintenant, de nos jours, à son accomplissement. Puissiez-vous donc vous accorder cette opportunité que Dieu vous a donnée, et que toutes les nations à travers le monde entier soient bénies et l'épouse de Jésus-Christ soit appelée à sortir, à se séparer de tout ce qui n'est pas correct. Puisse le chemin de Dieu être rendu droit, que tout ce qui est tordu soit redressé, que toute doctrine, toute pratique, toute chose qui n'est pas correcte soit mise de côté et qu'on se mette en accord avec la parole de Dieu dans sa forme originelle. Revenez à Dieu et soyez restaurés. Et nous, en tant que ministres, lorsque nous serons restaurés, alors Dieu nous utilisera pour restaurer toute l'épouse de Jésus-Christ. Son retour est imminent, comme il en a fait la promesse dans Jean 14. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Comme il est écrit dans Actes 1er, le verset 11, « Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Dans Luc 24, les versets 50, 51, les disciples l'ont vu allant physiquement au ciel, il reviendra de la même manière. Vous êtes bénis si vous pouvez reconnaître le temps de la visitation de Dieu. Si vous pouvez réaliser le but du ministère prophétique promis, ordonné de Dieu pour vos jours, le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sera avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous utilise puissamment. C'est là ma prière. Et je souhaiterais vous entendre, recevoir de vos nouvelles, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Photo de la nuée surnaturelle. Le 28 février 1963, cette nuée surnaturelle apparut sur la montagne de Sunset, au nord de Tucson, en Arizona, comme cela avait été montré au révérend Branham dans une vision le 22 décembre 1962. Ceci pourrait-il être le signe du proche retour du Seigneur Jésus? Bien que cette photographie ait été prise de très loin, le visage du Seigneur est clairement reconnaissable à l'intérieur de cette nuée. Le 19 avril 1963, le Science Magazine reproduisit cette photographie sur sa page de couverture. James E. McDonald de l'Institute of Atmospheric Physics et de l'University of Arizona à Tucson écrivit un rapport à ce sujet sans pour autant avoir une explication pour ce phénomène. Le grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présenta cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963 avec un article. Cette nuée lumineuse apparut dans un ciel bleu à une altitude où aucune humidité ne se trouve pour former de nuages. Cela est certainement une confirmation du Tout-Puissant qui, dans son amour, est également venu à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas croire sans voir. Photo de la colonne de feu au-dessus de la tête de William Branham. Sur cette photographie, nous voyons la lumière surnaturelle au-dessus de la tête de William Branham. Elle fut prise le 24 janvier 1950 pendant une réunion à Houston, au Texas, par un photographe de presse. Le studio Douglas, à Houston, envoya pour l'éprouver au docteur George G. Lacey, qui était en son temps examinateur des documents douteux au FBI. Après un examen approfondi, il confirma l'authenticité par ses paroles. « Je suis parfaitement convaincu que le négatif qui m'a été confié pour être éprouvé n'a été ni retouché, ni soumis à une double exposition, ni le produit d'un montage photographique. De plus, je suis parfaitement convaincu que le trait de lumière apparaissant sur la tête a été causé par la lumière impressionnant le négatif.